Au sommaire de ce journal, Téhéran qualifie l'attaque terroriste visant l'ambassade d'Iran à Kaboul d'exemple de guerre par procuration des États-Unis en Afghanistan. La diplomatie iranienne exhorte le Canada à abandonner sa politique de double standard. Les évolutions au Yémen, Ansar Allah sort son grand bazooka. Enfin, les défenseurs des droits de l'homme en France mettent en garde contre les conséquences de la loi sécurité globale. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Restez avec nous. Le président de la République islamique d'Iran a adressé un message de félicitations à son homologue libanais Michel Aoun à l'occasion de la fête nationale du Liban. Dans son message de félicitations, le président Rouhani a déclaré « Je félicite sincèrement l'anniversaire de l'indépendance de la République du Liban à votre excellence et au peuple honorable du Liban ». Notant que le Liban a traversé des moments difficiles au cours de l'année écoulée, le président iranien a souligné la résistance du peuple libanais et la gestion sage de leaders politiques a apporté la fierté du Liban et a montré au monde que le chemin vers la dignité, l'indépendance et la prospérité du Liban se poursuivra sous la présidence de votre Excellence avec la sympathie et le soutien de divers courants politiques. La République islamique d'Iran, comme par le passé, soutient le gouvernement et le peuple libanais et est prête à développer la coopération bilatérale dans tous les domaines, a précisé Hassan Rouhani. Déclarant que les États-Unis sont responsables de l'attaque terroriste contre l'ambassade d'Iran à Kaboul, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté que l'attaque était un exemple de guerre par procuration et des actions des alliés terroristes américains en Afghanistan. Condamnant tout acte terroriste visant le peuple afghan et les zones civiles, Saïd Khatibzadeh a exprimé ses sympathies au gouvernement et au peuple afghan, en particulier les familles des victimes de cet attentat terroriste. Lors de l'attaque terroriste par missile menée dans différentes parties de Kaboul, y compris le quartier diplomatique de la capitale, au moins une roquette a atterri dans l'enceinte de l'ambassade d'Iran à Kaboul, ce qui a causé des dommages mineurs à certaines installations et équipements, a-t-il dit. Téhéran exhorte le Canada à abandonner sa politique de double standard. Le Canada doit abandonner sa politique de deux poids deux mesures et remplir ses engagements internationaux, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Saïd Khatibzadeh a tenu ses déclarations ce matin lors de sa conférence de presse tenue en ligne. Il revient au gouvernement du Canada d'honorer ses engagements et de renoncer à sa politique de double standard. Il existe de nombreux domaines de coopération entre l'Iran et le Canada. Cependant, l'approche du gouvernement canadien a été destructrice au fil des dernières années, déplore le diplomate. Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne a qualifié d'imprudent de confondre le dossier nucléaire de l'Iran avec d'autres questions. Dans un tweet, Mikhail Ulyanov a rejeté l'idée selon laquelle la normalisation autour de l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 nécessiterait de s'attaquer au programme de missiles iranien ou à son comportement régional. Le diplomate russe, qualifiant de fausse une telle idée, a souligné que d'autres questions ont une chance d'être réglées uniquement dans un contexte régional plus large. Les États-Unis de Trump se sont retirés de l'accord nucléaire historique en 2018 et ont lancé depuis une campagne de sanctions contre la République islamique pour contraindre Téhéran à renégocier l'accord signé sous son prédécesseur démocrate Barack Obama. L'Iran a refusé à plusieurs reprises la renégociation de l'accord international. Autre thème, des diplomates iraniens et onusiens discutent des efforts pour régler la crise syrienne. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie, Geir O. Pedersen, et l'assistant principal du ministre iranien des Affaires étrangères aux affaires politiques spéciales, Ali Asrar Khaji, ont eu des entretiens sur les derniers efforts politiques pour résoudre les conflits en Syrie. Monsieur Pedersen, qui est à Téhéran à la tête d'une délégation pour des entretiens avec les autorités iraniennes, a tenu une réunion avec Monsieur Khaji pour discuter des derniers développements en Syrie, y compris le comité constitutionnel, la conférence sur le retour des réfugiés syriens et la situation à Idlib et à l'est de l'Euphrate. L'actualité régionale avec les évolutions au Yémen. Ansar Allah sort son grand bazooka. La 7e zone militaire à Ma'arib, occupée jusqu'à présent par les mercenaires de la coalition saoudienne, a été libérée. La reprise de toute la ville de Ma'arib n'étant qu'une question de temps. C'est un coup de maître en termes militaires et stratégiques, dans la mesure où la base militaire MAS se trouve sur le chemin reliant le pétrolifère Ma'arib à Sanaa. Avec sa reprise, ce sont tous les quartiers de la ville qui s'ouvrent aux forces de libération de la résistance. Notre commentaire politique d'aujourd'hui s'intéresse à ce sujet. L'armée israélienne a frappé plusieurs endroits dans la bande de Gaza sous blocus avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Les attaques ont visé plusieurs sites dans la ville de Gaza et Khan Younes ainsi qu'un avant-poste appartenant au mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas dans la ville de Rafah. L'armée israélienne a affirmé que toutes les attaques visaient des sites de munitions du Hamas et des infrastructures souterraines. Le régime de Tel Aviv a prétendu qu'il répondait aux tirs de roquettes de la bande de Gaza, mais aucun groupe palestinien n'a confirmé ni revendiqué les prétendues attaques à la roquette. L'agression israélienne a mené des frappes similaires sur Gaza la semaine dernière en réponse toujours aux présumés tirs de roquettes palestiniens. Israël mène fréquemment des attaques contre l'enclave en invoquant différents prétextes. Sachez d'autre part que le président libanais Michel Aoun a critiqué la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Aoun a déclaré que cette décision impliquait une acceptation tacite de la perte de la ville Sainte-Rose et des hauteurs du Golan occupés. Michel Aoun faisait référence aux accords parrainés par les États-Unis, dans le cadre desquels les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan ont convenu d'établir des liens avec Israël. Les accords de normalisation ont été vivement condamnés à travers le monde musulman. Les Palestiniens ont qualifié cette décision de coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne. Direction la France, où les défenseurs des droits de l'homme mettent en garde contre les conséquences de la loi sécurité globale. Alors qu'un nouveau rassemblement des opposants au projet de loi sécurité globale s'est tenu ce samedi 21 novembre à Paris, l'organisation non gouvernementale Amnesty International France, elle aussi, exprime son mécontentement par rapport à la mesure et dénonce une loi dangereuse pour les libertés individuelles, selon un article de France 24. Au lendemain de l'adoption en première lecture de la loi sécurité global, les défenseurs des droits de l'homme réagissent déjà, qualifiant la mesure de liberticide. Enfin, l'Éthiopie fait état d'avancées militaires au Tigré et rejette toute discussion. Le gouvernement éthiopien a fait état samedi d'avancées militaires dans la région dissidente du Tigré, restant sourd à la pression internationale pour faire cesser le conflit qui a causé la fuite de dizaines de milliers de personnes et fait craindre un désastre humanitaire. Nos forces sont en train d'avancer vers Mekele, la capitale de la région dissidente, a déclaré samedi un média gouvernemental éthiopien. Mekele est le fief du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, qui dirige la région. Prix Nobel de la paix en 2019, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclenché cette opération le 4 novembre contre le TPLF, les accusant de chercher à déstabiliser le gouvernement fédéral et d'avoir attaqué deux bases militaires éthiopiennes dans la région, ce qui nie les autorités tigréennes. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de notre commentaire politique dans quelques instants. MAS libéré. Ansar Allah yéménite domine Ma'arib. Est-il en connexion avec la Russie? La 7e zone militaire à Ma'arib, occupée jusqu'à présent par les mercenaires de la coalition saoudienne, a été libérée. La reprise de toute la ville de Ma'arib n'étant qu'une question de temps. C'est un coup de maître en termes militaires et stratégiques dans la mesure où la base militaire MAS se trouve sur le chemin reliant le pétrolifère Ma'arib à Sanaa. Avec sa reprise, ce sont tous les quartiers de la ville qui s'ouvrent aux forces de libération de la résistance. Le nombre des défections depuis l'annonce de sa reprise vendredi après-midi, défections mêlées aux heurts entre les pro-hadis, est énorme. Placé désormais aux portes de Ma'arib, Ansar Allah pourrait lancer à tout moment son opération. Et pourtant, la résistance a une prédilection pour une solution négociée avec les tribus de Ma'arib, car une offensive contre la ville reviendrait à fournir aux Saoudiens et à leurs alliés occidentaux le prétexte à bombarder les sites pétroliers et gaziers, les centrales électriques et d'autres points importants de la ville. Au fait, une reprise sans combat serait un double échec pour Riyad et qui traite les tribus Ma'aribines d'alliés. Mais il y a plus, Ma'arib reprise, Ansar Allah contrôlera tous les points de passage avec l'Arabie saoudite et sera que MBS, le prince héritier saoudien, le veuille ou pas, le grand voisin de Riyad. Fini le temps de le qualifier de milice aussi. Soutenu par les combattants des comités populaires du Yémen, Ansar Allah, l'armée yéménite a réussi à libérer la base Mas dans la province de Ma'arib et à refouler les forces d'occupation de la coalition saoudienne de la 7e zone militaire du Yémen, ont rapporté les médias yéménites, aussi bien que les sources militaires proches du gouvernement démissionnaire d'Abd Rabbou Mansour Hadi. La victoire, qui s'ajoute aux récentes opérations au succès des forces de la résistance à Ma'arib, s'annonce prometteuse pour la reprise totale de la ville stratégique par Ansar Allah. Le porte-parole de l'armée yéménite, le général Yahya Sari, expliquera bientôt les détails de l'opération de libération. La base stratégique de Mas était le dernier bastion stratégique des militaires liés au parti Al-Islah affilié aux frères musulmans dans la province de Ma'arib, mais aussi la plus proche de la ville du même nom. Par ailleurs, les affrontements entre les forces de l'axe de la résistance et les mercenaires de l'Arabie saoudite ont de nouveau éclaté dans la matinée de ce samedi 21 novembre à partir de trois axes autour de la ville de Ma'arib et du quatrième axe situé près de la province d'Al-Jaf. En dépit de l'envergure des opérations militaires de la coalition saoudienne, l'armée yéménite et les combattants d'Ansar Allah ont marqué des succès considérables sur le terrain. Ansar Allah du Yémen a déjà fait l'objet des sanctions de Washington qui fournit un soutien militaire et du renseignement à Riyad. Soutien qui, 6 ans après le début de la guerre, montre ses limites. Pour les experts yéménites, blacklistage d'Ansar Allah serait particulièrement périlleux. Que les Américains et les Britanniques coupent tous les liens avec la résistance yéménite, cela reviendrait à s'exposer aux attaques d'Ansar Allah. Or, l'axe US-OTAN dispose des bases et des centres de campement au sud du Yémen et ses sociétés pétrolières sont plantées à Ma'arib. C'est tout ceci que le blacklistage de la résistance yéménite remettrait en cause. D'où la division qu'une telle décision aurait déjà provoquée au sein de l'administration US. En effet, et puisque les Houthis mènent le jeu, leur blacklistage pourrait les pousser davantage dans les bras de l'Iran, mais aussi de la Russie, qui veut ouvrir sa première base navale au Soudan.